9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Flavie Flamand et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver avec Jimmy Mohamed sous vos applaudissements.
Ouais,
salut Jimmy,
ça va Flavie,
écoutez, ça va. Et puis alors moi je suis tellement contente, on va aborder un sujet qui me passionne aujourd'hui, c'est le pain.
Complètement.
On va le raconter à nos auditeurs.
Ah ouais, mais ça va être génial.
Et pour être tout à fait honnête, on va rien cacher à nos auditeurs, on est en train de goûter des pains incroyables, ce sera pour un petit peu plus tard. On est ensemble jusqu'à 10h, quel est donc le sommaire? Le pain est l'aliment de base en France. Pain de campagne, multicéréales, pain complet, baguette blanche ou tradition, à la boulangerie, en grande surface, il y en a partout, l'offre est vaste. Mais que contient le pain? Est-ce qu'il est bon pour la santé? Si chaque pain a ses atouts d'un point de vue nutritionnel, lequel faut-il privilégier? C'est le dossier de la semaine.
Et puis le kéfir, c'est une boisson ancestrale à base de lait ou de fruits fermentés. Le processus de fermentation pour avoir un kéfir, eh bien c'est très bon pour la santé, c'est donc l'aliment de la semaine.
Si les surdités apparaissent davantage après 50 ans, elles peuvent néanmoins survenir à tout âge et parfois de façon subite. Il est donc important de faire tester son audition pour pouvoir intervenir de façon préventive. Et dès lors que l'on remarque des signes de malentendance, tester son audition, c'est la routine de la semaine.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Et on commence, comme chaque semaine, par vos questions. Véronique par mail, qui se dit très fatiguée. Mon médecin m'a dit, après une prise de sang, que j'avais une hypothyroïdie. Quand est-ce que j'irai mieux avec le traitement? Alors, c'est quoi l'hypothyroïdie?
Ah, c'est vrai, vous avez raison, Flavie. Il y a l'hypo et l'hyperthyroïdie.
Exactement.
Donc, hypothyroïdie, c'est la thyroïde qui ne marche pas très bien. Hyperthyroïdie, c'est qu'elle marche trop vite. D'accord? C'est une thyroïde qui est plus ou moins lente. Alors en fait, la thyroïde, c'est une petite glande qu'on a tous, qui est une forme de papillon. Elle est constituée de deux lobes reliés au milieu par un isthme, c'est-à-dire une partie centrale, comme un papillon tout simplement. On l'a au niveau du cou, en avant de la trachée qui vous permet de respirer, et elle est placée sous la pomme d'Adam. En temps normal, la thyroïde, on ne peut pas la palper, on ne peut pas la sentir.
D'accord.
Et la boule que vous sentez juste en dessous pour les hommes, c'est la pomme d'Adam, c'est du cartilage. Et cette thyroïde, elle fabrique des hormones thyroïdienne.
Ça régule quoi la thyroïde? Parce qu'on dit que c'est hyper important.
C'est le thermostat de l'organisme.
D'accord.
Ça régule tout, mais vraiment tout. La thyroïde, elle va réguler votre métabolisme, c'est-à-dire la façon dont vous allez prendre ou perdre du poids. Une thyroïde qui est trop lente, c'est une prise de poids. Mais elle va aussi réguler vos émotions, votre température corporelle, votre humeur, le rythme cardiaque, votre transit. Et chez l'enfant, elle est extrêmement importante pour la croissance et le développement de l'organisme.
D'accord, donc je comprends en fait ce que nous dit Véronique quand elle dit qu'elle est hyper fatiguée.
Une thyroïde qui ne marche pas bien, l'hypothyroïdie, ça va être source de prise de poids très souvent, de fatigue, de constipation, un cœur qui est un peu lent, on est un peu triste, des symptômes qui sont très peu spécifiques. Et avant de se dire « Ah, j'ai un problème de thyroïde », bien, il faut aller voir le médecin, on fait une prise de sang, et c'est à ce moment-là qu'on dit « Ah, vous souffrez d'hypothyroïdie, votre thyroïde est trop lente, il faut qu'on l'accélère. »
Mais donc, ça veut dire qu'il faut avoir des symptômes pour consulter et penser à la thyroïde. On ne fait pas des contrôles de prévention.
Non, exactement. Alors, très régulièrement, les médecins, on balance à chaque fois thyroïde parce que les signes sont souvent très frustres.
D'accord.
Et parfois, on a juste un peu de fatigue, on a un problème de thyroïde.
D'accord. Au bout de combien de temps, Véronique, peut-elle espérer aller mieux?
Alors, on va du coup lui donner des traitements pour substituer cette hormone qui ne marche pas, puisque la thyroïde ne fonctionne pas chez elle, on va lui donner des hormones thyroïdiennes. Et il faut du temps. Souvent, les patients pensent que quand on donne un traitement, au bout de quelques jours, tout va rentrer dans l'ordre. Pour les problèmes de thyroïde, c'est souvent des semaines, voire des mois, avant de trouver le bon dosage. Puisqu'en fait, on ne sait pas exactement comment votre thyroïde ne marche pas, et le dosage varie d'une personne à une autre. Donc, en clair, on sait que durant les prochaines semaines, les prochains mois, ça peut mettre un peu de temps, mais on finit toujours par y arriver. C'est la bonne nouvelle, et c'est la prise de sang qui permettra de savoir si votre thyroïde est bien ou pas équilibrée.
Patience donc, Véronique. Merci pour votre question.
Posez vos questions par mail à Flavie Flamand et au docteur Jimmy Mohamed
à l'adresse santé@rtl.fr.
Aïe, 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 c'est Pascal qui s'est fait un panari. Mon médecin m'a dit de ne pas percer moi-même cette petite boule de pus. Comment éviter le panari et le traiter? On rappelle ce qu'est un panari, c'est au niveau de l'ongle,
Ouais, complètement. C'est une petite infection qui se trouve sous l'ongle ou à la base de l'ongle. C'est une infection bactérienne, le plus souvent un staphylocoque. Ça fait une petite boule. Au début, c'est rouge, ça lance, ça fait mal. Et puis après, on a une boule de pus, ça se collecte et ça devient le vrai panari qui donne une douleur absolument insupportable.
Voilà, ça a l'air de rien, en fait, mais ça fait hyper mal. Voilà. C'est dû à quoi?
Souvent, le panari, c'est lié à un petit traumatisme. La peau, c'est une barrière qui nous protège des infections à l'extérieur. Pour qu'un panari et qu'une bactérie se développent, il faut qu'à un moment, il y ait une brèche. Donc, quelqu'un qui va se faire une manucure de façon trop agressive, va se couper un ongle, va se couper le doigt, va mettre ses mains n'importe où, qui va se ronger les ongles, eh bien, on crée des micro-traumatismes qui fait que la peau ne remplit plus sa fonction de barrière. Une bactérie peut arriver et c'est là que le panari arrive. Un panari vient systématiquement dans un contexte de traumatisme de l'ongle ou du doigt, en particulier ceux qui se rongent les ongles.
Qu'est-ce qu'on fait du coup quand ça arrive ?
La première des choses à faire, c'est de désinfecter. Donc, Exomédine, d'Aquin, vous faites ce que vous voulez, mais il faut faire ça 4 à 5 fois par jour, des bains d'Aquin. On met le doigt, on trempe le doigt dans le coquetier. Au bout de 2 ou 3 jours, les choses doivent rentrer dans l'ordre. Puisque le panari, il fait un peu mal, mais si c'est insupportable, c'est qu'il y a un problème. Et la seule chose à retenir, c'est que si ce panari vous lance comme si le cœur battait dans le doigt, que ça vous empêche de dormir, et ben là, c'est une indication à aller voir le chirurgien. Puisque c'est le chirurgien qui vous débarrassera du panari.
Donc en fait, on finit par se faire opérer quoi ?
Très souvent, le panari doit être opéré, parce que quand moi je donne je vois régulièrement des patients avec un panari, je leur dis, je vous donne le traitement, mais ça passe ou ça casse. D'accord. Soit dans 2 jours, ça va mieux et vous êtes guéri, soit ça va être de pire en pire, et dans ces cas-là, c'est le chirurgien pour un petit truc comme ça. C'est un chirurgien orthopédique qui fait ça, il évacue le panari, et si vous le percez vous-même, il y a le liquide qui sort, mais le problème c'est que dans un panari, il y a une coque à la base qu'il faut retirer. Et donc ça, c'est au chirurgien de le faire, et ça se fait le plus souvent à l'hôpital ou dans des cliniques. En quelques minutes, c'est réglé, sous anesthésie locale. Il n'y a pas besoin d'anesthésie générale, évidemment. Et puis, on est débarrassé, on a un pansement et les choses rentrent dans
l'ordre. Comment on l'évite, nous demande Pascal, et même ceux qui nous écoutent et qui ont peur de... Alors déjà, on ne ronge pas ses ongles.
Voilà, et dès qu'on a un petit bobo, on dit « Oh, ça me fait un peu mal, il faut désinfecter ». Le panari traité à temps permet d'éviter les complications. Et prudence, si vous avez du diabète, des maladies qui fragilisent votre système immunitaire, puisque vous êtes plus exposé aux surinfections. Et vraiment, le message, c'est « J'ai un bobo, j'ai mal, je désinfecte. » Et si au bout de 48 heures, ça ne s'améliore pas, allez voir le médecin. Et parfois même nous, au cabinet, on peut débarrasser le panari. Ça soulage le patient et tout le monde est content.
Alors, je vous écoute, évidemment. Et puis, comme vous écoute Pascal, et que l'on remercie pour sa question. Mais là, moi, vous voyez, j'ai faim. Je ne sais pas.
Je vous sentais ailleurs, Flavie. Je vous ai vu regarder le pain depuis tout à l'heure. Je le sentais, Flavie. Mon histoire de panari, c'est sympa.
Dans un instant, on va accueillir Adriano Farano. Il a un accent du tonnerre et il va nous parler du pain. Parce que c'est vrai que le pain, ça pose question. Certains en mangent, d'autres pas, certains adorent, d'autres en ont peur, d'autres ont l'impression que ça fait gonfler, que ça fait grossir. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va répondre à toutes nos questions, donc ça va être super, on va pouvoir le goûter. Ce sera dans un instant. On va parler du kéfir aussi, ça c'est super, parce que le kéfir,
fermentée.
On en voit tout le temps comme ça
c'est
dans les rayons.
C'est génial pour le microbiote.
Et on ne sait pas effectivement véritablement de quoi il s'agit. Et on parlera de nos oreilles, voilà, parce que c'est important de faire des tests d'audition.
Oui. À partir de 50 ans, on entend un peu moins bien.
Comment ?
Allez,
qu'est-ce on se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand, Jimmy Mohamed.
Ça va beaucoup mieux.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Eh bien, on y va direct.
Pas de soucis, c'est parti.
Parce qu'on est très heureux d'accueillir ce matin pour le dossier de la semaine sur le pain, Adriano Farano, fondateur de Pane Vivo, le pain qui fait du bien et auteur d'un livre « Je ne mangerai pas de ce pain-là » aux éditions du Werg qui vient de paraître.
Adriano, bonjour.
Buongiorno.
Déjà
ça va mieux. Adriano, vous êtes boulanger, mais pas que. Oui. Vous avez aussi été journaliste.
Oui.
Vous êtes journaliste de formation. Pourquoi vous êtes intéressé à la fabrication du pain ? Pourquoi un journaliste se met à faire du pain tout d'un coup ?
Alors, moi j'ai commencé honnêtement à faire du pain pour moi-même, pour ma famille, comme ça. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, vous savez, on est une famille franco-italienne, on a tout le temps des invités à la maison. Et les gens me disaient, Adriano, je ne mange pas de pain, je suis désolé, parce que tu sais, ça fait grossir. Je ne mange pas de pain, je suis intolérant au gluten, ou alors c'est des calories vides. En fait, on se rend compte finalement que le pain, chez beaucoup de personnes, est devenu, on le traite avec de plus en plus de méfiance. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Parce que c'est un aliment de base, c'est un aliment sacré dans plusieurs religions. Comment ça se fait qu'il y ait tous ces problèmes ? Et donc là, j'ai gardé ma casquette de journaliste, on va dire. J'ai fait une étude donc, qui a résulté dans ce livre. Et j'ai découvert des choses assez accablantes. Donc, par exemple, même un pain complet, aujourd'hui, va voir un indice glycémique supérieur à celui du Coca-Cola. C'est une étude qui a été financée par l'Association de la Ménagerie française. On va voir aussi des problèmes d'inflammation, dû au gluten moderne.
Donc tout ça, vous avez dit, c'est pas possible.
C'est pas possible. Et donc, j'ai commencé à mettre la main à la pâte. J'ai rempli ma cuisine de plein de farine. J'ai fait une vraie enquête, en fait, mais vraiment avec les mains à la pâte. Et on a trouvé enfin un blé digne de ce nom, dont le gluten se dégrade et qui donne aussi un pain à un indice glycémique faible.
Ce que vous venez de nous expliquer, justement, sur ce pain, cette comparaison avec des boissons sucrées, des sodas et tout, ça en dit long. Ça en dit long sur les raisons pour lesquelles on peut être méfiant. Oui. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pas mangé de pain depuis des semaines parce moi, ça me réussit pas. J'ai effectivement l'impression à chaque fois que ça me fait gonfler, que je prends du poids. Et c'est quelque chose que je partage avec plein de gens. En fait, on a raison d'être méfiant.
Oui, on a raison d'être méfiant. Exactement. Pour expliquer tout ça, c'est très simple. On est passé de blé haut, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui les blés anciens, qui avaient un petit problème en étant haut. En fait, ils avaient tendance à tomber. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'averse. Et donc, ça baissait les rendements. On est passé de ça, en fait, aux blés modernes, qui sont des blés, en fait, nains. En étant tout petits, ils ne vont pas tomber, ils se tiennent bien droit comme des soldats. Et donc, les rendements sont spectaculaires. Petit problème, le gluten de ces blés modernes a tendance à être pro-inflammatoire et donc ça crée tout un tas de complications.
Ah oui, parce que le pain, vous l'avez dit, c'était l'aliment de base pendant des millénaires.
Clair.
Enfin, on a mangé du pain sans aucun problème
dans
jusqu'à...
Dans le milieu rural, ça fait partie des mêmes...
C'est un aliment pas cher, bon marché...
C'est 80% de l'alimentation d'un être humain jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui, bon, tu vois.
C'est pour et ça les gens s'en portaient bien à l'époque.
Exactement, et c'est pas qu'on dit encore aujourd'hui son gagne-pain, on dit la compagnie, le mot compagnie vient de cum pané, copain, c'est inscrit dans notre langue.
Un copain, c'est la personne avec laquelle tu coupes le pain.
Même les verbes accompagner, par exemple, vient de là. Compagnon.
Le pain est partout.
C'est ça. Et du coup, donc, qu'est-ce qui se passe? Si on ne peut plus partager le pain avec ses copains, et qu'est-ce qu'on va partager? En fait, aujourd'hui, le pain nous divise au lieu de nous rassembler.
C'est vrai.
Et c'est ça, en fait, qui, moi, m'a animé. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Et donc, on a mis la science moderne, la recherche au service de cette redécouverte de ces mains ancestrales.
Alors, on peut revenir sur la base. C'est fait de quoi, un vrai bon pain?
Il est fait d'un blé, donc un blé haut, donc ce qu'on appelle aujourd'hui un blé ancien. Il faut savoir que ces blés anciens, on en a interdit jusqu'en 2022 le commerce.
Ah bon?
C'est-à-dire que depuis les années 60, on avait retiré complètement les blés anciens de ce qu'on appelle le catalogue officiel des semences. Parce qu'évidemment, le pain, ça a causé des révolutions. Donc l'État s'en est mêlé. Tout ça pour dire que historiquement, en fait, on puise vraiment les racines dans l'histoire de notre société. Donc en 2022, l'Europe, elle arrive, ça suffit avec tout ça, on est en train de tuer la biodiversité, on essaie de remettre au goût du jour les variétés anciennes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un phénomène nouveau de redécouverte, mais finalement de blés anciens qui nous font du bien.
Mais c'est quand même incroyable que ces blés anciens aient été mis de côté au profit d'un blé nain qui n'est pas spécialement bon pour la santé, c'est pour le rendement.
Exactement, Flavie, vous prenez un hectare avec, par exemple, le blé que nous utilisons, vous obtenez entre 1 et 2 tonnes maximum de blé en termes de rendement. Maintenant, ce même hectare, vous allez planter des blés modernes, on est en moyenne à 7,5 tonnes par hectare et 4-5 tonnes pour le bio moderne. Parce que le bio, il faut savoir, la plupart des blés bio existent aussi en moderne, c'est-à-dire ces blés nains. Donc certes, vous n'avez pas de glyphosate.
Donc le blé bio, parce que moi je me dis, c'est bio, ça va être un super blé de bonne qualité, là aussi on peut se faire un petit peu...
Donc c'est mieux que le conventionnel parce que vous n'avez pas de glyphosate, mais il y a un gros problème aussi parce que vous pouvez faire du bio avec les blés modernes.
Bon, alors, on entend souvent parler de la baguette tradition. Alors, la baguette tradition, c'est pareil. Moi, quand je demande une tradition, je suis plutôt, a priori, plutôt rassurée.
En effet, c'est meilleur que le pain courant, que la baguette courante. Parce que, par exemple, dans la baguette de pain courant, vous avez jusqu'à 14 additifs. Alors que dans la baguette tradition, vous n'en avez que 6.
Mais 14 additifs dans une baguette classique
Jusqu'à 14. Après, dépend des meuniers, ça dépend des boulangers, etc. Mais il y en a 14 qui sont autorisés par la loi. La baguette tradition, vous n'en avez que 6. Mais parmi ces 6-là, il y a, à mon avis, le plus dangereux de tous, qui est ce qu'on appelle le gluten vital. C'est une poudre de gluten qu'on obtient en lavant une pâte de pain pas chère et en gardant que le gluten qu'ensuite on va lyophiliser, transformer en poudre. Comme si le gluten qui se formait naturellement avec la farine n'était pas déjà suffisamment pro-inflammatoire. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, ça favorise l'élasticité, la viscosité de la pâte pour que le pétrin puisse tourner plus rapidement.
Donc en fait, même mais la tradition...
Moi, je m'en fiche, moi, de l'élasticité de la pâte. Ce que je veux, c'est avoir du bon pain.
Bah, mais donc même la tradition, finalement, moi, j'avais l'impression d'avoir un bon pain avec une tradition, pas forcément. S'il fallait classer, je sais pas, du pire au meilleur. Le pire des pains, c'est quoi? C'est la baguette?
Bah, ça va être vraiment la baguette, je pense.
Mais c'est celle qui est la plus consommée en France.
Et qui est celle qui est la plus consommée. Alors, c'est la tradition qui est la plus consommée, en fait.
D'accord.
Donc, c'est un peu mieux. Mais après, il ne faut pas oublier, voilà, aussi le problème de l'indice glycémique. Par exemple, aux États-Unis, on mesure l'indice glycémique sur la base du pain blanc. C'est l'indice 100 aux États-Unis.
Alors, on va rappeler ce que c'est que l'index glycémique.
Alors, oui.
Alors, en fait, quand vous mangez un aliment, votre sucre va monter plus ou moins rapidement dans le sang. Et en fonction de la vitesse à laquelle le sucre va être libéré, l'index glycémique va être plus ou moins important. Ces index, ils varient de 0 à 100. 100, c'est le maximum. Et puis, plus on diminue, plus l'index glycémique est faible. Et on pense que pour la satiété, pour ne pas avoir faim et ne pas prendre de poids, il faut plutôt des aliments avec un index glycémique plutôt faible. Et on considère que le pain blanc, du coup...
100
c'est aux entre 85 et 100, si vous le comparez en Europe, parce qu'en Europe, on utilise le sucre, le glucose, d'accord, vraiment comme valeur 100. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert, parce que chez Panibio, donc moi, j'embauche une équipe de 4 boulangers et une chercheuse. On est la seule boulangerie de France dotée du statut de jeune entreprise innovante, parce qu'on fait ce travail de recherche. On a découvert, donc, en lisant des études scientifiques, le pain complet, il a un indice glycémique supérieur à celui du Coca-Cola, il est à 85. Le Coca, il est à 63. Ça devrait être inférieur à 55. Donc, nous, on a pris notre pain et on s'est dit, on va faire non seulement une mesure de l'indice glycémique comme ça, in vitro, c'est-à-dire dans une éprouvette, non, on va le faire in vivo. C'est-à-dire avec prise de sang avant et après. On l'a fait. Voilà.
Et
donc, là, pour le coup, on a trouvé le bon indice glycémique qui est à 48. Il faut savoir que le pain, c'est surtout des glucides. Mais là, vous avez des glucides de bonne qualité.
D'accord.
Ah ouais, donc vous avez trouvé un pain qui permet d'éviter les pics de taux de sucre.
Exactement.
Et de profiter d'un bon pain, parce que c'est aussi ça qu'on va chercher.
Mais on nous parle donc de la tradition, on nous parle du pain complet, on nous parle du pain au froment, aujourd'hui on nous parle du multicéréal. Enfin bon, on nous propose plein de pains. Moi, j'avoue que je suis complètement perdue. C'est d'ailleurs pour ça que j'en consomme pas, je ne sais jamais ce qu'il y a de bien.
Flavie, il faut comprendre en fait les mots. Les mots sont importants.
Oui.
Donc, pain complet. Complet, a priori, ça voudrait dire on prend le grain de blé complet,
absolument,
entier. Alors, je ne suis pas le premier à en avoir parlé, c'était Pierre Poilane dans les années 50, il avait écrit une tribune dans Le Monde pour dénoncer ce scandale déjà à l'époque qu'on allait retirer de la farine complète sa partie la plus précieuse, à savoir le germe de blé. Pourquoi on la retire? Pour ensuite la revendre 150 fois plus cher à l'industrie pharmaceutique pour qu'il nous la refourgue sous forme de complément alimentaire au germe de blé. Donc, le pain complet, il faudrait l'appeler pain incomplet.
Total.
Alors, moi, évidemment, quand j'ai choisi ma farine, je suis allé voir mon menu, je me dis, je m'en fiche, tu me factures plus cher, mais je veux que tu gardes le germe de blé, parce que c'est un super aliment.
On
donc,
est
c'est
convaincu.
Ce qui fait le pain complet. Ok, d'accord. Mon fils, il adore les sandwichs au pain de mie. On va en parler dans un instant, parce qu'ils vous font pas ça, vos enfants?
Ah bah si, même le matin, les tartines au pain de mie.
Ah ouais, c'est ça, le pain de mie, le pain de mie. En plus, le pain de mie en supermarché, laisse tomber. Enfin, moi, je trouve ça vraiment terrible.
Ouais.
Ça colle à au palais.
On peut pas appeler ça du pain, mais
on va en parler
avec
notre invité.
C'est le gluten.
On se retrouve dans un instant avec vous, Adriano Fano. Et puis, on parlera du kéfir. Et puis, on parlera aussi de l'audition. À tout de suite.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Avec Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
C'est vous qui parlez, Jimmy.
Oui,
moi, je mange.
Vous avez du pain plein la bouche. Mais il est tellement bon, le pain, Adriano.
C'est
là, c'est du vrai pain, du bon pain.
Voilà.
Parce que justement, on parle du pain, du vrai, du bon, celui qui peut nous faire du bien.
Vous êtes, mon cher Adriano Farano, fondateur de Pane Vivo. Où est-ce qu'on peut acheter votre pain?
Alors, on peut l'acheter dans nos boutiques et on peut le commander sur Internet.
Les boutiques sont à Paris?
Voilà, les boutiques sont à Paris. L'aventure a commencé dans le mini-quartier de Ménilmontant, dans le 20e.
Ah, c'est là où j'ai grandi.
C'est vrai,
mais c'est le quartier de mon enfance.
Bah, voilà. On est rue de la Chine, qui en plus a donné le nom au verbe chiner, parce qu'il y avait à l'époque un petit marché. Donc après, on est allé rue du Bac, on a aussi une boutique rue du Bac, donc rue de la Chine. Ensuite, on est allé 16e. Et à République, et on fait aussi les marchés du 5e le samedi Port-Royal.
Mais vous livrez aussi. Et
on livre à la maison.
Et on peut avoir un abonnement.
C'est
voilà.
Ça, c'est un pain qui se garde 10 jours.
10 jours? Attendez, pareil. Parce que là,
oui,
quand
mais
on
du
achète...
vrai pain, tu vois.
Oui, mais quand on achète une baguette, des fois, j'achète la baguette le matin, le soir même, elle est déjà toute molle, elle n'est pas bonne. Comment
bien
on explique
sûr,
ça
bien sûr. Ben, en fait, c'est un procédé chimique qui finalement renvoie à la même raison pour laquelle l'indice glycémique est faible, c'est-à-dire c'est la teneur en amidon résistant.
Oui.
Et c'est aussi donc, en amont sur le blé. Donc nous, on a calculé, il y a 5 fois plus d'amidon résistant. C'est-à-dire que ces amidons, ils ne se transforment pas en glucose. Et ils vont même jouer le rôle de fibre alimentaire, donc en nourrissant le microbiote. Donc tout le monde est content. C'est en amont et en aval, vous avez la fermentation naturelle. C'est-à-dire que nous, notre pain, c'est 100% levain naturel. Il n'y a pas un gramme de levure. Et c'est ça, donc, avec la fermentation lactique qui permet de baisser le pH et donc au pain de se garder plus longtemps.
On va parler des différents pains que vous avez apportés. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne parce que ceux qui nous écoutent sont peut-être en train de prendre leur petit-déj. Il y a peut-être des petits jeunes, justement, qui sont sortis hier soir et puis là, qui sont en train de se faire une bonne tartine sur un pain de mie. Pain de mie que l'on achète maintenant sans mie, enfin sans croûte, pardon. Ouais, il n'y a que la mie. On ne va pas citer de marque parce que franchement, c'est parfaitement dégueulasse. On peut dire comme ça ou pas?
Bah, je pense que...
Au niveau du, goût, c'est pas du vrai pain, ça.
Bien sûr. Donc, déjà, moi, j'adore, par exemple, toutes les chroniques de Jimmy. Donc, j'écoute le fait de mâcher, de prendre le temps.
Bien sûr.
À partir du moment où vous avez la croûte, évidemment, vous allez engloutir. Ce n'est plus de la gastronomie, ce n'est plus de l'alimentation. C'est engloutir des calories, c'est engloutir des sucres, du sel. Enfin, c'est n'importe quoi.
Quand je vous dis que ça colle au palais, c'est vrai, hein. Tu as du mal à mâcher.
Le gluten, en fait, va se former encore plus avec la salive. Et donc, à partir du moment où vous avez même une farine blanche, ça devient du plâtre, ça attache sous le palais. Enfin, c'est...
Qu'est-ce qu'on a?
Alors, c'est lequel que vous avez mangé, Flavie, celui-ci?
Alors, allez-y.
Ça, c'est la Brio Paloma. Donc, c'est la nouvelle Brio. Donc, les gens me demandaient des brioches. Moi, j'ai dit, je suis désolé, je ne peux pas vous faire des brioches, mais je pouvais vous faire des Brio, c'est-à-dire des brioches sans chichi, sans sucre, sans lait, sans beurre. La seule matière grasse, c'est l'huile d'olive vierge extra d'une variété ancienne d'olive.
C'est divin.
Et qui donne ce moelleux. Et après, on s'amuse. Donc, jusqu'au mois dernier, on avait fait matcha abricot. Et là, c'était la Nagori, et là, c'est la Brio Paloma, qui en plus s'est inspirée d'un gâteau de mon enfance italien, donc avec l'amande, des pouilles, et l'orange corse confite, sans sirop de glucose.
C'est absolument délicieux. Voilà, je me tourne vers l'équipe. C'est absolument délicieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, donc ensuite, donc, le patriarche de la maison, c'est le Sapiens.
Pourquoi l'avoir appelé comme ça, Sapiens?
Bah oui.
Homo Sapiens, sans le pain, n'aurait pas été Homo Sapiens. Ouais. Ça a été en fait, finalement, une invention magique de stocker des calories et des glucides de bonne qualité qui pouvaient se garder longtemps. Mmh. Donc déjà, le blé, vous pouvez le stocker et ensuite, vous pouvez en faire de la farine et donc pendant très longtemps. Donc ça, c'est le Sapiens. Ensuite, nous avons les mini-brio avec la noisette IGP du Piémont et le chocolat noir. Ça, c'est une petite tuerie.
Oh là là,
donc ça, pour les enfants qui sont en train de faire le petit-déjeuner, c'est mieux que le pain de mie. Ça, c'est sûr.
Et après... Mais non, c'est nous les enfants aujourd'hui. C'est nous qui allons manger.
Exactement.
Et là, je vous propose aussi le Sherazade. Alors ça, c'est un peu un voyage en Orient. Là, on a des feuilles de zaatar, donc c'est un origan sauvage, avec du sumac d'Ispahan, qui en plus a un pouvoir hypoglycémiant, avec de l'huile d'olive toujours de Sicile.
Bon, alors, c'est bon pour la santé. En termes d'indice glycémique, apparemment, d'après ce que j'ai compris de vos valeurs et de la façon dont vous travaillez, on est sur quelque chose, pardonnez-moi, de tout à fait honorable. Maintenant, en termes de prix, est-ce que ce pain est plus cher?
C'est plus cher, bien sûr que c'est plus cher. Parce que, donc, on en parlait tout à l'heure, à partir du moment où vous avez un rendement entre 1 et 2 tonnes par hectare pour notre blé, contre 7,5 tonnes les autres blés, c'est forcément plus cher. À partir du moment où on va utiliser uniquement du levain naturel, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un cycle de fermentation de 48 heures, contre 1 à 2 heures pour quand on ajoute la levure. Donc, ça n'a rien à voir. Mais en revanche, en mangeant ce pain, on se fait plaisir déjà au niveau des papilles et puis surtout en fait en mangeant un indice glycémique faible, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent à la maison, quand vous mangez un IG bas, vous êtes normalement mieux rassasié, donc vous mangez moins mais vous mangez mieux. Et en plus, c'est anti-inflammatoire parce que le gluten, il se dégrade à 100%.
Mais du coup, ça coûte combien? Pardon.
Non, oui, dans les
Oui, non, mais.
Donc, Sapiens, par exemple, que vous avez parlé.
Oui, il est à 15 euros. Voilà.
15 euros le kilo.
Voilà, 15,80 € le kilo. Donc, après, ce qu'il faut calculer, c'est la dose quotidienne par jour. Donc, c'est environ entre 50 et 100 grammes. Donc, ça revient à 1 euro, même pas par jour, par personne. Ça coûte plus cher, on va dire 20-30% plus cher qu'un pain petit épeautre. Mais on va vraiment se faire plaisir et avoir, par exemple, dans ce pain, moi j'ai presque autant de fer que dans la viande rouge. J'ai 2,5 mg contre 2,8. Donc c'est un pain qui est un alicament et qui en plus se garde longtemps.
Et pour ceux qui sont intolérants au gluten, par exemple?
Si, il y a deux sortes d'intolérance. Donc, l'intolérance vraiment sévère, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Donc, ça, non. Parce qu'en fait, on manque des enzymes pour découper le gluten. Ça, c'est même pas la peine. Mais ça ne concerne que 1% des personnes aujourd'hui. Et il faut savoir que 90% des gens qui mangent sans gluten, en fait, selon les statistiques, ne sont pas cœliaques.
Ils
ont une hypersensibilité qui, des fois, peut avoir des symptômes tout aussi sévères et embêtant.
Avec votre pain?
Mais on peut le manger. Celui-là, on peut le manger. On a même fait, donc nous, parce que je vous disais, on a une chercheuse, une étude de digestibilité. On a eu 430 réponses. On n'a pas trouvé jusqu'à maintenant une seule personne qui était hypersensible au gluten et qui ne pouvait pas manger ce pain-là.
Mais quand on est sensible ou hypersensible au gluten, qu'est-ce que ça fait, Jimmy?
Ça veut dire que lorsqu'on va manger une petite quantité de pâte ou de riz qui varie en fonction de chacun, ou du pain de mauvaise qualité, on va avoir des douleurs abdominales, de la diarrhée, de l'inconfort, on va gonfler, on va avoir
moi,
des douleurs articulaires.
Quand je mange du pain, c'est pour ça que j'en mange pas, j'ai l'impression que c'est hyper calorique.
Oui.
Donc là, ce que vous me dites, c'est qu'en mangeant vos pains, c'est
ça.
Bon.
Et donc, il y a un disconfort intestinal, bien sûr. Il y a aussi des problèmes après au niveau du mental. Parce que, évidemment, le microbiote, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et donc, j'en parle dans mon livre, il y a tout un schéma, vous avez les symptômes qui sont intestinaux, vous avez les symptômes mentaux, ça peut aller jusqu'à la schizophrénie. Il y a la dépression, il y a la fatigue, il y a le brouillard mental.
Même si tout n'est pas expliqué, évidemment, par le microbiote.
Évidemment.
Il y a souvent des prédispositions génétiques, des facteurs environnementaux, mais l'idée, c'est de se dire qu'on peut bien s'alimenter et on peut nourrir son microbiote avec un pain de qualité comme le vôtre. Et vraiment, les auditeurs, là, ils ne se rendent pas compte, mais l'odeur aussi, elle est incroyable du pain. Votre pain, il a une odeur, mais fantastique, en plus du goût.
C'est parce qu'en fait, manger un pain comme celui-là, c'est comme déguster un verre de vin dans ces pages autochtones. On va vraiment rentrer dans un univers gustatif et olfactif très particulier.
Ouais, écoutez, cette plongée était très agréable. Vous avez écrit un autre petit livre autour des recettes de pain zéro gaspille.
Oui.
Vous avez quoi à nous proposer rapidement?
Oui, et bah, par exemple, la pappa al pomodoro, qui est une soupe, vous prenez une sauce tomate, mettez des croutons de pain, de vieux pain, et après, vous, avec un petit robot mixeur, vous en faites un velouté. Autre chose, évidemment, c'est les bruschettes, donc avec des tranches de ce pain vieux d'un mois. Il suffit de frotter de l'ail dessus, mettre un peu d'huile d'olive, un peu d'origan, quand ce sera la saison, des bonnes tomates, et là on se régale.
Voilà, et des croutons, on peut faire plein
et
de petits
Et on peut faire des croutons, on peut faire des pains perdus.
De la chapelure.
C'est ça. Pour redécouvrir le goût du vrai pain, il faut savoir le perdre, d'une certaine façon.
C'était super.
C'était super.
Merci beaucoup, Adriano Farano. Donc je rappelle que c'est Pané Vivo, P-A-N-E-V-I.
Le pain vivant. Voilà,
le pain vivant. Merci à vous. Je ne mangerai pas de ce pain-là. C'est aux éditions du Rouergue.
Pas facile à dire.
Non, pas facile à dire, mais vous l'avez compris. Merci à vous. À bientôt sur RTL.
À bientôt.
9h15, 10h.
Ça va beaucoup mieux sur RTL. Avec le docteur Jimmy Mohamed et Flavie Flamand.
On adore vous donner des conseils. Alors non pas qu'on se positionne comme ça en spécialiste. Enfin, Jimmy est médecin. Moi, je suis novice et je teste tout. Et je suis curieuse.
Mais vous avez plein de connaissances,
Flavie. Bah écoutez, c'est grâce à vous aussi. Et c'est quand on s'intéresse qu'on apprend plein de trucs. Mais ça, c'est le but de cette émission. C'est tous les samedis matins de 9h15 à 10h sur RTL. On s'intéresse aussi à votre santé, à votre alimentation. Et justement, on arrive donc à notre aliment de la semaine.
Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur RTL.
Et aujourd'hui, alors je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui les voient au rayon frais et qui se demandent de quoi il s'agit. C'est le kéfir.
Complètement. Alors le kéfir, c'est une boisson qui est issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés. C'est pour ça que parfois on est perdu. Ouais. C'est du lait ou c'est du jus de fruits qu'on peut préparer avec des grains de kéfir, qui est un levain qui est constitué de bactéries lactiques et de levures. Alors le principe de la fermentation a été découvert par une tribu nomade du Caucase, des éleveurs de vaches, de juments, de brebis, de chèvres, qui se sont aperçus que le lait stocké 2 jours dans un sac en cuir à température ambiante, eh bien il fermentait et il pouvait créer des boissons pétillante, comme c'est le cas pour le kéfir.
Et ça a quel intérêt pour la santé?
C'est une très bonne boisson, à la fois pour le plaisir, parce qu'il faut qu'une boisson soit bonne, mais en plus pour la santé. On sait que ce kéfir, il contient ce qu'on appelle des probiotiques. Vous savez, les probiotiques que vous achetez à la pharmacie, et bien en fait, ils sont présents de façon naturelle dans un aliment, et ce qui permet de nourrir votre microbiote, c'est-à-dire votre flore intestinale. Ainsi, vous allez mieux digérer, ça permet de réguler le transit quand on a de la diarrhée, quand on est constipé. Et puis, c'est intéressant pour le système immunitaire. On sait qu'un microbiote perturbé, c'est une plus grande sensibilité aux infections. Il faut voir votre tube digestif comme une bouteille d'eau. En temps normal, la bouteille, elle est hermétique. l'eau ne coule pas. Quand vous mangez des aliments ultra transformés, des mauvais produits, eh bien c'est comme si vous faisiez des petits trous au niveau de la bouteille. Du coup, l'eau, elle part, et en fait, les bactéries, elles passent dans la circulation sanguine. C'est en ça que le microbiote permet de vous renforcer. Donc, dans le kéfir, vous avez des probiotiques qui renforcent votre système immunitaire et qui contiennent aussi des lactobacilles un peu particulières qui vous permettent, c'est des probiotiques, de lutter contre les infections. Donc c'est une boisson qui est bonne en bouche et bonne pour la santé.
Et sous forme de lait, justement, c'est intéressant parce que je me dis, bah, les lactoses, les os...
Complètement, vous avez entièrement raison. C'est une très bonne source de calcium, de protéines, de vitamine D, de nutriments. Donc ce kéfir, quand on le prend sous forme de lait, c'est à la fois pour le plaisir du lait, mais aussi pour les ferments et aussi ce qui permet de renforcer les os. Donc ça, c'est une question de goût. Certains n'aiment pas trop le goût du lait fermenté parce que c'est un goût un peu particulier. Ouais. Mais c'est très consommé au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique, en Asie. En Europe, on a un peu plus de mal. Dans ces cas-là, vous pouvez vous tourner vers les eaux pétillantes de kéfir qui sont très bonnes, qui sont aromatisées et faibles en sucre. Dans un cola traditionnel, on a 10 grammes de sucre pour 100 ml. Dans un kéfir, il y a du sucre, c'est normal, ça permet la fermentation. Vous avez 4 grammes. Donc
rien
c'est
à voir.
60% de moins que dans un cola classique.
On peut en prendre quand même le kéfir de lait si on est intolérant au lactose ou pas ?
Oui, parce que contrairement aux autres boissons qui sont purement à base de lait, en fait, le kéfir peut passer pour celles qui sont intolérants au lactose. Alors évidemment, on est tous plus ou moins intolérants au lactose et ceux qui sont vraiment intolérants au lactose peuvent avoir des symptômes en la consommant. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que ce kéfir, il a 80% de lactose en moins que dans un lait classique. Donc ça peut être une alternative pour ceux qui sont intolérants au lactose et se faire plaisir en ayant cet apport de lait et en bénéficiant encore une fois de tous les côtés positifs et du renforcement du microbiote grâce au kéfir, tous au kéfir.
Il y a Stéphanie qui vous a écrit.
Flavie et le docteur Jimmy Mohamed attendent vos questions par email à l'adresse santé@rtl.fr.
Stéphanie, elle a 50 ans, elle a de l'arthrose au niveau de la hanche. Je dois me faire opérer, mais j'ai peur du résultat. Est-ce que c'est une intervention risquée? L'arthrose à 50 ans, c'est pas un petit peu tôt?
Bah oui et non, parce qu'en fait on observe quand même des patients de plus en plus jeunes avec de l'arthrose. C'est essentiellement dû à l'obésité. En fait, le surpoids, l'obésité, ça entraîne une contrainte supplémentaire sur nos articulations et on le comprend assez bien. On est en surpoids, les genoux vont être plus lourds, ça va être plus compliqué. Mais pas que. On s'est rendu compte que les personnes qui sont en surpoids et obèses ont aussi plus d'arthrose de la main et du poignet. Pourtant, la main, elle n'est pas plus lourde. Mmh. Donc en fait, au travers de notre alimentation pro-inflammatoire, avec les produits ultra transformés, on augmente le risque d'arthrose. Et c'est une des raisons pour laquelle on voit des patients de plus en plus jeunes avec de l'arthrose. Et puis, il y a un terrain héréditaire, évidemment, on n'est pas tous égaux. Et puis, il y a aussi parfois des fractures, des entorses mal guéries. Je donne un exemple tout bête. Vous faites une entorse de cheville, on la traite par le mépris le plus souvent. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites une deuxième entorse, puis une troisième entorse.
D'accord.
Ça entraîne de l'instabilité de la cheville qui favorise l'arthrose. Donc c'est l'alimentation, l'hérédité et aussi un peu les blessures.
L'arthrose, ça n'est pas réversible?
Non, c'est pas réversible, mais si on s'amuse à faire des IRM et des scanners à tout le monde a de l'arthrose. À partir de 30 ans, vous avez de l'arthrose au niveau du cou. Pour autant, est-ce que j'ai des douleurs? Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Donc c'est pas parce que vous avez une radio qui dit que vous avez de l'arthrose que vous êtes foutu. Il y a pas de corrélation entre la radio où on dit "Oh là là, c'est la catastrophe." Eh ben moi, j'ai pas de douleur. Ou à l'inverse, je vois des radios, le patient, il a un tout petit truc, mais qu'est-ce qu'il a mal? Donc en fait, l'arthrose, c'est un phénomène naturel qui arrive avec le temps, mais on n'a pas tous des douleurs, et c'est quand on a des douleurs qu'on doit faire quelque chose.
Mais Jimmy, si je vous pose la question, c'est qu'en fait, vous nous parlez, par exemple, du surpoids et de l'arthrose. Donc à partir du moment où tu as de l'arthrose, même si tu perds du poids, de toute façon...
C'est réversible, non? C'est-à-dire que...
Bah voilà, c'est ça, il y aura de l'arthrose toujours.
Non, c'est réversible.
Ah, c'est réversible.
Parce que l'arthrose, elle est là, mais les douleurs... Donc l'arthrose, vous avez raison, elle est irréversible.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais les symptômes que vous allez avoir et l'évolution de l'arthrose avant le stade de la prothèse, et ben, ça dépend aussi de votre activité physique, de la perte de poids.
Voilà.
Et puis parfois, on peut faire aussi des infiltrations. Et pour répondre à la question de Stéphanie, la chirurgie, elle marche très bien. La prothèse de hanche, c'est lève-toi et marche.
Ok.
Quand on est au stade de la prothèse, parce qu'on ne peut plus marcher, le chirurgien vous met la prothèse, c'est quasiment en ambulatoire, vous êtes opéré le matin, vous sortez l'après-midi, et vous marchez comme si de rien n'était.
Ah bah on peut la rassurer alors Stéphanie.
Donc il faut en parler à son chirurgien, mais c'est une des chirurgies qui marche le mieux, avec un taux de satisfaction très important.
RTL,
ça va beaucoup mieux.
Faire tester son audition, c'est quelque chose que l'on fait tous les ans, nous, par notre métier, parce qu'on porte des casques et qu'on fait un métier où on parle dans un micro et on a des sons dans les oreilles toute la journée. Voilà. Mais comment ça marche, l'audition?
Alors, c'est hyper important de comprendre qu'avec le temps, on a des cellules dans l'oreille qu'on appelle les cellules ciliées, qui sont responsables de l'audition. Dans le cerveau, on a des milliards de neurones. Ces cellules ciliées, on n'en a que 15 000. Donc avec le temps, en vieillissant, ces cellules elles vont disparaître et on entend moins bien. C'est pour ça qu'à partir de 50 ans, on peut commencer à moins bien entendre, sauf que ce phénomène est très progressif et on s'en rend pas tout de suite compte.
D'accord. Donc, on peut commencer à entendre mal à partir de quel âge?
Il faut pas attendre d'entendre mal pour consulter.
C'est ça.
Le premier des symptômes, c'est je suis gêné pour suivre une conversation quand il y a du bruit autour de moi. Ouais. Si vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans une soirée et vous n'arrivez pas à suivre la conversation car il y a trop de bruit autour de vous, c'est que peut-être vous avez une baisse de l'audition. Et ça, d'accord, c'est un des symptômes qui nécessite de contrôler son audition. Même chose si vous avez des acouphènes, les bruits un peu bizarres, eh bien ça peut être lié à une baisse de l'audition. Donc le message est simple, à partir de 50 ans, même si vous pensez bien entendre, allez voir l'ORL pour vous faire tester, puisque même si vous avez une toute petite baisse de l'audition, on pourra vous appareiller.
Okay.
On a observé un lien très clair et démontré entre la baisse de l'audition et la maladie d'Alzheimer. Et plus tôt on est appareillé, plus ce sera facile. Car notre cerveau, en fait, il va rapidement s'adapter. Or, si on laisse traîner les choses, l'appareillage est beaucoup plus difficile et ça devient compliqué. Or, une fois qu'on est appareillé, on réduit le risque de maladie d'Alzheimer. Donc, à 50 ans, on se fait dépister, on fait un petit test d'audition et tout va bien.
Voilà, c'était la routine de la semaine. Et surtout, on ne traîne pas, hein, parce que les choses peuvent être réversibles en termes d'audition. Mais si on traîne, ça s'aggrave. Merci beaucoup, mon cher Jimmy.
Merci, Flavie, c'était
plaisir. C'était bien encore, là, dites-moi, c'est pas possible. On va plus jamais pouvoir se séparer.
On les enchaîne.
Là. On les enchaîne, c'est incroyable. On se retrouve évidemment samedi prochain pour un nouveau numéro donc de Ça va beaucoup mieux l'hebdo. Les émissions précédentes sont en replay sur l'application RTL 3210 santé@rtl.fr. Je le répète chaque semaine, maintenant les auditeurs savent qu'ils vous retrouvent le matin à 8h30 sur RTL.
Et je le répète chaque semaine, mais les auditeurs savent que vous êtes à partir de lundi jusqu'à vendredi dans le jour J à 20h.
Semaine, quoi.
Mais un petit rappel, ça fait toujours du bien.
Voilà, autre rappel, c'est celui de notre prochain rendez-vous tous ensemble. Donc Ça va beaucoup mieux l'hebdo samedi prochain à 9h15. Juste après les infos, c'est Stop ou encore avec l'ami Eric Jean-Jean. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous surtout. Faites attention à vous et mangez du vrai bon pain.
Ouais, c'est clair.
On vous embrasse. Bon week-end. Salut Jimmy.
Salut Flavie.
Jimmy Mohamed.
Flavie Flamand.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.